Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du lundi 30 mai 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. C'est notre première émission cette semaine. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Ça vaut le détour, c'est votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clic CVLD ou @canal barre de soulignement M sur Twitter. Vous pouvez en tout temps nous soumettre des sujets qui vous touchent ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, on découvre Solidarité à votre portée, un portail de répit pour les parents. Lancé au début du mois, le site offre une vitrine aux organismes offrant du répit et une porte d'entrée pour les familles désirant un peu de repos. On s'entretient avec Mme Caroline Lavoie, coordonnatrice du soutien aux familles à l'organisme Solidarité de parents de personnes handicapées, à 12h45. C'est la chronique mensuelle de l'AQUIS, l'Association du Québec pour l'intégration sociale, et on parle de leurs différentes sources de financement, dont celle du support, la Fondation de la déficience intellectuelle. Madame Annick Larose, directrice de l'AQUIS, et M. Philippe Siebes, directeur général de la Fondation, seront avec nous en deuxième partie d'émission. On accueille aussi en studio le conseiller du CAMO pour personnes handicapées, Franck Bouchard, qui nous présente une chronique sous le thème « Je me pars en affaires, travail autonome et personnes en situation de handicap ». Il nous présente les avantages et inconvénients de travailler à son compte, mais surtout les ressources pour bien réussir. Mais d'abord, on commence par notre segment culturel et on se tourne vers la région de la vieille capitale, plus précisément à Beauport, où la Société d'art et d'histoire de Beauport dévoilera dans les prochains jours l'exposition « Mémoire fragmentée et fragments de mémoire » qui proposera des visites guidées pour les personnes à déficience visuelle ou auditive. Pour nous en parler davantage, je joins au téléphone Mme Anne-Yvonne Jouan, coordonnatrice aux lieux patrimoniaux. Bonjour Mme Jouan.
Bonjour.
D'abord, décrivez-nous l'exposition « Mémoire fragmentée et fragments de mémoire » qui sera présentée dans les prochains jours à la Maison Girardin.
C'est une exposition qui va se dérouler en deux volets, une exposition assez traditionnelle, classique, et une exposition qui offre un volet en médiation culturelle grâce au soutien de financiers de plusieurs organismes, dont la Ville de Québec, le ministère de la Culture et la Caisse des Jardins de Beauport. Alors, cette exposition, pour la faire, on a invité un céramiste qui s'appelle Renaud Sauvé à créer et même réinventer des contenants qui servaient dans la préparation et la conservation des médicaments. Car il faut savoir que la maison Girardin, c'est une vieille maison d'inspiration française de la fin du 18e. Elle se trouve dans le bourg de Fargis qui était le fief du premier seigneur de Beauport qui s'appelait Robert Giffard, qui a eu cette seigneurie en 1134. Et Robert Giffard était lui-même chirurgien apothicaire. Alors de cette idée nous est venue de recréer en fait une ancienne apothicairerie.
Et donc c'est une exposition qui mélange histoire et création artistique. Actuelle.
Tout à fait, parce qu'en fait, l'idée pour nous n'était pas d'exposer d'anciens pots à pharmacie, même si on a emprunté une petite partie de contenants pharmaceutiques de l'ancien Institut Robert Giffard, comme un clin d'œil évidemment à Robert Giffard. Mais ici, c'est donc l'idée, c'est plutôt d'imaginer, de recréer une ancienne apothicairerie et grâce à l'interprétation qu'en fait l'artiste, mais aussi d'amener le visiteur sur un chemin plus poétique pour découvrir justement le travail tout à fait contemporain de Renaud Sauvé.
Mmh. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'ajouter à la présentation, un format plus traditionnel d'exposition, ce volet de médiation culturelle?
Alors, au départ, c'est une rencontre avec Myriam Reis de Palma, qui est la fondatrice d'un OBNL qui s'appelle Main Bleue. Cette personne a travaillé ici à la Société d'art et d'histoire de Beauport. Elle est diplômée en histoire de l'art et elle est elle-même malentendante. Donc, très tôt, elle a été sensibilisée à l'accès à la culture pour les personnes avec une déficience. Bah, pour elle, c'était une déficience auditive. Et donc, en conversation avec elle, l'idée nous est venue de monter ce projet à la Maison Girardin.
Est-ce que c'est la première fois que vous ajoutez un tel volet d'accessibilité à une de vos expositions?
Oui, tout à fait. Ça va être innovant pour nous, surtout que nous sommes une petite structure. D'habitude, ce genre d'adaptation a lieu dans des institutions plus grandes, des musées plus importants. Donc là, on innove et on propose cela dans une toute petite structure.
Et généralement, lorsqu'on parle d'exposition dans des musées ou des sites patrimoniaux, on ne veut pas que les visiteurs touchent les œuvres, les objets, de peur, entre autres, de les abîmer.
Tout à fait. C'est la raison pour laquelle le volet de médiation culturelle est ici très, très important. En fait, tout est organisé en amont de la visite pour que les personnes ayant une déficience auditive ou visuelle, par exemple, puissent être accueillies dans les meilleures conditions et puissent toucher les œuvres. C'est d'ailleurs de cette manière qu'on va pouvoir leur expliquer de manière très détaillée comment est montée l'exposition.
Et comment est-ce que vous avez procédé pour créer cette version accessible de votre visite?
Alors en fait, Myriam est allée donc en Europe, notamment en France et en Belgique, pour voir comment les expositions dans des petites structures étaient organisées. Et à partir de là, nous de notre côté, on a réalisé un concept qui nous était plus proche, aussi en rapport avec l'exposition estivale Mémoire fragmentée.
Pardon. Donc, le vernissage, en fait, est dans les prochains jours. Est-ce que vous avez déjà accueilli certains visiteurs pour tester vos visites guidées personnalisées?
Non,
pas
alors on est en train de le faire, on est en train de terminer le montage, notamment de la table multisensorielle. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, en fait, on remet par exemple aux personnes qui vont avoir un problème de vue et qui sont capables de lire en braille, un document en braille pour expliquer l'histoire de la Maison Girardin et l'exposition. Et puis sur cette table multisensorielle, ils vont pouvoir toucher différentes céramiques à différents stades de la fabrication, donc avant cuisson, avant l'émaillage, etc. Ils vont pouvoir découvrir les formes des albarelli, des chevrettes, de tous les pots en fait traditionnels qui servent à la conservation des médicaments. Ils vont pouvoir toucher l'argile et il y aura aussi tout un aspect qui mettra de l'avant l'odorat, puisque la plupart des médicaments sont à l'époque étaient fabriqués à base de plantes, et donc on va pouvoir découvrir des senteurs. Et Myriam a même décidé d'y ajouter le goût en faisant goûter des tisanes. Mais en plus de ça, on a prévu une maquette réduite pour les personnes qui ne pourront pas se rendre à l'étage où a lieu l'exposition estivale. Et donc, les personnes pourront toucher la maquette et découvrir en fait le lieu de l'étage. Mm-hmm. Et par ailleurs, la Fondation des Sourds de Québec, très gentiment, propose des visites guidées avec une personne qui signe. Donc, je pense qu'on va être assez complet.
Tout à fait. C'est vraiment une belle initiative. C'est aussi, comme vous le dites, rare de voir ça dans des plus petits lieux culturels.
Tout à fait.
Et il y aura même un volet création aussi.
Oui, on va inviter donc les personnes qui le souhaitent à réaliser une petite mosaïque. Donc en fait, on va les aider à imaginer les couleurs pour les associer, mais aussi elles vont choisir les formes et elles vont créer les mosaïques. Et ces petites mosaïques vont d'ailleurs faire l'objet d'une mosaïque plus grande, commune, qui sera dévoilée le 25 août.
Pour terminer l'exposition. Ce sera le dévoilement de la mosaïque.
Oui, il y aura toute une petite soirée organisée effectivement à la fin de l'été.
Est-ce que vos lieux, justement, sont accessibles aussi pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en fauteuil roulant?
Alors, ils le sont au rez-de-chaussée. Malheureusement, l'étage, comme c'est une maison patrimoniale, n'est pas accessible en fauteuil roulant.
Donc, c'est d'où l'idée de pouvoir mettre cette maquette à disposition.
Exactement.
À
exactement.
Disposition au
Elle va,
étage.
En fait, la maquette va reconstituer la pharmacie traditionnelle.
Est-ce que ce sera possible de... Est-ce qu'il y a, au premier étage, il y a une partie de l'exposition qui sera aussi... Est-ce que
oui.
certains pots, certains, certaines
oui,
céramiques
fait,
sont disponibles?
En fait, donc, au rez-de-chaussée, on va faire toucher aux personnes et découvrir en fait aux personnes qui ne pourront pas monter à l'étage toutes les formes, les contenants, toutes ces formes particulières comme les albarelli qui servaient aux onguents, les chevrettes qui servaient au liquide. Donc ça, ce sont des formes qui sont typiquement pour la pharmacie. Les personnes qui ne pourront pas monter à l'étage découvrir les œuvres pourront les découvrir au rez-de-chaussée. Certaines seront mise à disposition spécifiquement pour elle.
Mm-hmm. Super. Bon, au moins, on a pensé au plus vraiment aller chercher le plus d'éléments possible pour rendre l'expérience la plus complète pour tous les visiteurs. Est-ce que vous avez collaboré avec l'organisme Main Bleue pour
oui.
cette première expérience? Est-ce que vous croyez que ce sera un partenariat qui va se poursuivre par la suite pour d'autres expositions? Celle-ci
on
termine
le
en septembre,
oui,
mais donc pour les
souhaite.
Prochains?
Tout à fait. On en a parlé avec Myriam, donc la fondatrice de Main Bleue, et on souhaite vraiment renouveler l'expérience en adaptant à chaque fois de manière tout à fait originale en fonction des expositions temporaires. Oui.
Quels ont été pas les obstacles, mais les difficultés, les découvertes que vous avez faites durant ce processus de médiation culturelle?
Eh bien, écoutez, pour moi qui ne suis ni malentendante ni malvoyante, effectivement, toute la vie est très facile pour moi tous les jours. Je ne me rends pas compte à quel point, si vous voulez, il y a beaucoup d'obstacles à franchir et que un organisme culturel comme le mien ne fait pas forcément les choses nécessaires pour que ce soit facile. Alors que... pour ma part, je pense que quelques petites adaptations suffisent. Ce n'est pas beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir accueillir des gens qui vont avoir du plaisir à découvrir justement un aspect culturel qu'ils n'ont pas lieu de voir d'une autre manière. Alors par exemple, pour comprendre ces enjeux-là, on va proposer aux visiteurs qui vont venir cet été de mettre un masque sur leurs yeux et de se mettre en situation au niveau de la table multisensorielle d'une personne malvoyante.
Mm-hmm. Donc, on invite en plus tous les participants, finalement, à essayer une nouvelle expérience en entrant dans le lieu.
Tout à fait. De manière à ce que la plupart des gens comprennent les enjeux en lien avec ce volet médiation culturelle.
Madame Jouan, faut-il réserver pour avoir une visite adaptée?
Oui, parce que nous souhaitons mettre les personnes avec un handicap dans les meilleures conditions. Alors, de préférence, nous leur ferons les visites en dehors des visites publiques, de manière à ce que, par exemple, vous comprenez que si on n'entend pas bien, s'il y a beaucoup de bruit autour de nous, c'est encore plus difficile de faire la visite. Alors, Myriam offre des visites sur rendez-vous. Il suffit de la contacter donc par courriel à mainbleue.info@commercialgmail.com. Elle a aussi un site internet mainbleue.info.
Main Bleue qui s'écrit au singulier. Je le rappelle et on mettra aussi un lien vers l'organisme sur la page de l'émission. Félicitations pour votre beau projet, ce nouveau volet de médiation culturelle adapté que vous ajoutez à votre mission. Le vernissage est ce jeudi.
Ce jeudi, et la maison est ouverte à tous à partir de samedi. On vous attend avec plaisir.
À partir de samedi, pour tout l'été, on vous souhaite une très, très belle exposition « Mémoire fragmentée et fragments de mémoire ». Anne-Yvonne Jouan, coordonnatrice aux lieux patrimoniaux, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.
Tu t'en fais trop, pas tous les jours. Problème d'argent, tu cours toujours. Ta vie est souvent sous zéro. T'as l'impression de perdre ton temps. T'as les deux pieds dans le ciment. T'es rendu au point de non-retour. Tu cherches une sortie de secours. Toi, tu as trop de soucis. Beaucoup trop de soucis. Car on a tous la même envie de changer le monde. Pas tant que ça, y'a du soleil que tu vois pas. Souvent juste à côté de toi. T'as peur de prendre le métro. Tu lis peut-être trop les journaux. La fin du monde. Pas pour demain. Trop de sang d'encre, ça sert à rien. Toi, tu as trop de soucis. Beaucoup trop de soucis. On a tous la même envie de changer le monde. Prendre la vie comme elle se doit, par en avant, pendant qu'il nous reste du temps. Toi, tu as trop de soucis. Beaucoup trop de soucis. Car on a tous la même envie de changer le monde. En paradis, tu as trop de soucis, beaucoup trop de soucis, car on a tous la même envie de changer le monde.
Trop de soucis de Sébastien Lacombe, tiré de son album Nous serons des milliers. A-t-on trop de soucis? Actuellement, je pense qu'on se porte plutôt bien. J'ai mon nouvel invité avec moi en studio, Franck Bouchard du Camo pour personnes handicapées. Bonjour.
Bonjour.
Donc, un de nos collaborateurs précieux tout au long de la saison de Ça vaut le détour. Et maintenant, c'est notre dernière chronique parce qu'on termine la saison dans les prochains jours. Aujourd'hui, on parle, donc en fait, tout au long de la saison, vous nous avez apporté beaucoup d'éléments sur l'inclusion au travail, l'intégration au travail, travailler en amont, rencontrer des employeurs, etc. Mais si on veut être son propre employeur, c'est aussi une option possible.
Ça peut être effectivement une option possible. Plusieurs personnes en situation de handicap choisissent cette option, soit parce qu'elles sont effectivement intéressées à se partir en affaires. Elles ont des idées, elles ont un peu un profil entrepreneurial, donc elles ont cette envie-là de se partir en affaires. Pour d'autres, ça peut être un choix, peut-être plus un plan B, si on pourrait dire, dans le sens où le marché de l'emploi régulier, salarié, pour eux, ils ont essayé, ça donne pas nécessairement les résultats escomptés, ils ont de la difficulté à se trouver de l'emploi. On ne va pas se le cacher, le milieu, le marché du travail n'est pas toujours favorable aux personnes handicapées, mais donc elles peuvent choisir, donc, ben, écoutez, si j'arrive pas à me trouver un emploi, je vais essayer de me créer mon propre emploi à ce moment-là et de me partir en affaires. Donc, dans les deux cas, il y a des avantages, des inconvénients, évidemment, à décider de se partir en affaires. D'une part, bon, évidemment, si, effectivement, d'avoir le profil entrepreneurial, d'avoir envie de se lancer en affaires, déjà en partant, c'est un facteur qui peut sûrement aider dans le sens où, je sais pas, c'est pas donné à tout le monde nécessairement de se partir en affaires.
Justement, quelle qualité entrepreneuriale il faut posséder ou il faut développer pour pouvoir bien partir en affaires?
Ben, d'une part, il faut quand même avoir, il faut avoir un tempérament pour ça, donc un certain évidemment potentiel entrepreneurial. Je dirais qu'il faut quand même avoir un peu le goût du risque, dans le sens où on a envie de se lancer. Donc, en affaires, évidemment, ben il faut générer des revenus, il faut trouver des clients, il faut avoir envie donc de se mettre, d'avoir une tolérance par rapport à ce risque-là, dans le sens où bon, on ne sait pas nécessairement si ça va marcher, si ça va fonctionner, est-ce que les fins de mois, est-ce que ça va bien aller ou pas? Donc, il y a toujours, évidemment, un inconnu. Est-ce que je vais réussir à me trouver des clients, des revenus, et qui vont me permettre donc de générer suffisamment de revenus pour pouvoir en vivre aussi également, évidemment, de cet emploi-là, de ce travail-là. Donc, c'est sûr que ça prend une bonne capacité à cet égard-là. Ça prend aussi quand même une certaine capacité de travail, parce que faut pas se le cacher, partir en affaires, c'est pas du travail à 35 heures semaine, 9 à 5. C'est plus que ça, évidemment. Dans la plupart des cas, ça demande un investissement important en termes de temps. 50, 60, 70 heures, on entend souvent ça parler des gens qui sont partis en affaires, ils ne calculent pas leurs heures. Donc, c'est sûr que ça prend une certaine capacité de travail à cet égard-là. Ça prend aussi une certaine confiance aussi en soi. Il faut se vendre, il faut vendre notre entreprise, il faut vendre nos compétences. Donc, il faut quand même être à l'aise avec soi. Donc, il ne faut pas être craintif. Il faut vraiment avoir une bonne confiance en soi. Une facilité à communiquer, évidemment. Si on vend nos services, notre entreprise, nos produits, il faut avoir une certaine capacité à communiquer, à bien communiquer ce qu'on veut, ce qu'on souhaite vendre, ce qu'on souhaite offrir. Donc, c'est quand même pas donné nécessairement à tout le monde d'avoir toutes ces qualités-là. Et lorsqu'on parle d'une personne qui a une situation de handicap, bien, on voit qu'il y a peut-être certains obstacles qui peuvent se présenter. Quand je dis que ça prend un peu tout ce potentiel-là, mm-hmm. Est-ce que pour des personnes handicapées, ça peut correspondre parfaitement? Ou alors, quelle sorte de réflexion il faut faire si on est une personne en situation de handicap, qu'on décide de se partir en affaires?
Justement, parce qu'il y a une réflexion à avoir, entre autres, parce que, bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients. On l'a brièvement abordé, effleuré, l'aspect de il faut être très, justement, très entreprenant, aller chercher des contrats, parce que c'est de l'instabilité, beaucoup, surtout dans les débuts. C'est beaucoup de travail, c'est énergivore. Donc, ce sont des choses à considérer si ça fonctionne avec notre situation.
Effectivement, il faut vraiment se préparer correctement lorsqu'on veut décider de partir en affaires. Il ne faut pas faire ça sur un coup de tête ou parce que, comme je l'expliquais au début, on n'arrive pas à se trouver de l'emploi. Ben, je vais me partir ma propre business, ma propre job, puis bon, tant pis pour les employeurs, puis ça va marcher. Mais ça demande plus de réflexion de ça. Effectivement, comme vous dites, au début, ça peut être très, très prenant. Demander beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas si simple que ça, de partir en affaires. Il faut penser, il faut réfléchir au début. Il faut peut-être aller aussi prendre le temps d'aller chercher de l'aide, parce qu'il y en a, il existe de l'aide. Il y a des organisations qui peuvent donner de l'aide. Mais il faut se préparer à cet égard-là. Donc, d'abord, peut-être analyser son propre potentiel, son propre profil d'entrepreneur. Est-ce que j'ai ce profil-là? Est-ce que j'ai les qualités pour être un entrepreneur, d'une part? Et d'autre part, est-ce que aussi mon idée d'entreprise aussi fonctionne? Parce que oui, on peut avoir des qualités d'entrepreneurship, mais ce que je souhaite vendre, offrir comme produit, service, est-ce qu'il y a une clientèle pour ça aussi quand même? Donc, c'est important aussi de cet égard-là de bien analyser aussi le marché, une étude de marché. Mm-hmm. Peu importe ce qu'on vend, faut savoir c'est quoi la concurrence qui existe, c'est quoi le marché, c'est quoi les prix, est-ce qu'il y a suffisamment de clients pour me permettre d'en vivre, etc. Donc, sur le territoire que je souhaite exercer, est-ce qu'il y a tout le potentiel? Donc, c'est sûr qu'il faut aussi valider son idée d'entreprise dans cet égard-là. Donc, ces deux éléments à vérifier même au préalable, une première étape, c'est vraiment de voir, bon, j'ai-tu le profil, puis mon idée, tiens-tu la route?
Franck Bouchard, je trouve que j'ai une bonne idée, j'ai regardé le marché, je crois que j'ai des qualités entrepreneuriales pour mettre en marche mon plan d'affaires. On parle de stratégie à ce moment-là. Quelles ressources peuvent m'aider, peuvent m'appuyer?
Bien, il y a plusieurs ressources qui peuvent aider. Il y a des ressources, disons, plus générales, dans le sens où peu importe qu'on soit une personne handicapée ou non, on a accès à ces ressources-là. Par exemple, ici à Montréal, on retrouve le SAGE, qui est un service d'aide donc aux jeunes entreprises, les PME Montréal là, qui ont pris le relais des CLD puis des CEDEC. Ailleurs aussi, dans les autres régions du Québec, on va retrouver justement des CLD, des centres locaux de développement, qui vont offrir des services donc d'accompagnement pour démarrer son entreprise, faire un plan d'affaires, etc. Donc, vérifier, peut-être aussi avoir accès accès à de l'aide financière, soit des prêts ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même des ressources qui existent à cet égard-là pour justement se préparer à se lancer en affaires. Il y a aussi des ressources d'aide financière. Si les gens, par exemple, sont sans emploi, sont peut-être prestataires de l'assurance-emploi ou de la sécurité du revenu, Emploi Québec offre un programme qui est le soutien au travail autonome, le programme STA, qui est quand même assez connu, donc qui permet à une personne de se préparer justement, prendre une année pour se lancer en affaires, avoir quand même une certaine base de revenus qui est fournie par Emploi Québec, une subvention donc, ou une aide financière qui est fournie pendant l'année où la personne peut démarrer son emploi, donc son entreprise, pardon. Donc, à cet égard-là, c'est un soutien. Il y a aussi un soutien plus spécifique qui est donné par l'organisme SFA Québec, soutien pour personnes handicapées en route vers l'emploi. SFA Québec, donc, gère pour le Québec des mesures du Fonds d'intégration au travail, le Fonds fédéral, mais ils ont développé au fil des ans vraiment une certaine expertise, une bonne expertise même pour accompagner justement les personnes en situation de handicap qui souhaitent se démarrer en emploi. Ils offrent, on peut avoir accès à leurs mesures d'aide financière. Si on a besoin d'adaptation, par exemple, aussi dans notre travail qu'on souhaite mettre de l'avant, est-ce qu'il y a des besoins d'adaptation ou d'outils spécifiques, bien, SFA Québec peut aussi fournir de l'aide financière, mais ils offrent aussi des conseils à cet égard-là pour accompagner la personne dans son démarrage d'emploi. Ils ont aussi même, et ça, je pense que c'est quelque chose que je considère un peu incontournable, ils ont élaboré il y a quelques années un guide pour justement aider les personnes à planifier leur projet puis à évaluer la faisabilité de leur projet d'entreprise. Ça s'appelle « Travailler à mon compte, j'y réfléchis ». C'est un guide qui est d'ailleurs disponible sur le site web de SFA Québec qui permet justement aux personnes de faire cette réflexion-là, de regarder ce que j'ai tout, de se préparer et de se faire accompagner par la suite aussi avec les gens de SFA Québec dans leur démarche. Avoir de l'aide financière également qui peut être en complémentarité avec le soutien de travail autonome ou alors une aide aussi, si le soutien autonome n'est pas dans d'Emploi Québec et pas dans le décor, bien, peuvent aussi fournir de l'aide financière. Encore là, un peu la même forme, une sorte de salaire pendant l'année qui permet à la personne vraiment de prendre le temps qu'il faut pour bien démarrer chez les choses sans avoir nécessairement à se soucier de dire ben, comment je vais faire pour arriver à la fin du mois.
Tout à fait, parce que c'est la question ultime qui revient toujours pour les travailleurs autonomes, particulièrement si on est en situation de handicap, parce qu'il y a des obstacles supplémentaires. Rapidement, il nous reste quelques minutes, ces programmes-là qui nous sont accessibles, qui sont disponibles pour nous, est-ce que c'est long avant d'avoir des réponses? Est-ce que tout le monde est accepté? Quoi les démarches à faire?
Les démarches à faire, c'est sûr qu'il y a différents... Bon, si, par exemple, on est prestataire de la sécurité du revenu, de se tourner vers Emploi Québec, programme STA, par exemple, c'est une chose. Ça peut prendre un certain temps, tout dépendant de la disponibilité financière, peut-être, du programme STA. Faut aussi avoir une certaine idée. Avant d'avoir accès à ça, faut valider notre idée. Faut quand même démontrer Emploi Québec que notre idée d'entreprise fonctionne. Du côté de SFA Québec, il y a des critères spécifiques à SFA Québec. Faut quand même y répondre aussi à la base. Mais une fois que les critères, qu'on répond à ces critères-là, ben, les services vont assez vite, qu'on peut avoir accès assez rapidement aux services de SFA Québec.
Merci beaucoup pour ces belles informations. Alors, on souhaite bonne chance à nos entrepreneurs qui nous écoutent.
Oui.
On termine rapidement. Franck Bouchard, conseiller au CAMO pour personnes handicapées.
Ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup d'avoir collaboré avec nous tout au long de la saison.
Ça a été un plaisir de collaborer à votre émission. Merci.
Merci.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Alors, toujours à Ça vaut le détour, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic CVLD et sur Twitter, @canal_M. Je n'ai pas eu le temps de le dire avec notre précédent invité, Franck Bouchard, mais on met toujours les informations sur la page de l'émission. Je vous invite à aller la retrouver, l'émission Ça vaut le détour, sur vusetvoix.com. Donc, vous avez toujours les informations de nos sujets dont on parle. On n'a pas toujours le temps de dire les adresses courriels, les sites web, mais c'est toujours là pour vous. On accueille encore une de nos collaboratrices de la saison, Annick Larose, directrice de l'AQIS, l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Bonjour.
Bonjour.
Et aussi un nouvel invité en studio, M. Philippe Sibès, directeur général du support, la Fondation de la déficience intellectuelle. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios. Aujourd'hui, notre dernière chronique, notre dernier tour de table ensemble. Et tout d'abord, avant d'entrer dans notre sujet de chronique, j'aimerais, Annick, que vous fassiez un petit rappel de la mission de la KIS.
Alors, la KIS regroupe plus de 80 associations. On a un mandat national de promotion des intérêts et de la défense des droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, on est en quelque sorte la représentation de la déficience intellectuelle par rapport aux décisions notamment qui sont prises tant au niveau gouvernemental. On essaye de faire avancer cette cause-là qui malheureusement, surtout en ce moment, est laissée un peu à elle-même. Donc, on a 65 ans cette année. Donc, une des vieilles associations, donc des vieux regroupements. C'est un peu ça notre mandat. C'est très large parce qu'on couvre vraiment toute la sphère de la vie de la personne, là, du tombeau, du berceau au tombeau et même avant, je dirais, là, avec tous les enjeux de dépistage.
Tout à fait. Et donc, c'est vraiment là où vous supportez, en fait, vous soutenez quotidiennement des personnes qui ont une déficience intellectuelle, leur entourage, leur famille. Vous les guidez.
Mais c'est surtout au sein, avec nos associations, et c'est surtout un groupe de pression, je dirais, également. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas de contact journalier ou quotidien avec les personnes directement, mais c'est vraiment un travail avec nos associations et de représentation.
Justement, 80 associations, ce n'est pas rien. Et ce regroupement, il y a une association, en fait, une fondation de la déficience intellectuelle, le support. J'aimerais qu'on en parle.
Bien, le support a été créé, c'est anciennement la Fondation québécoise de la déficience intellectuelle qui a été créée en 1988, justement pour assurer la pérennité à long terme de la KIS. C'est ça a été créé en 88 et plus de 28 ans que la Fondation existe. Et on a pris un peu une voie un peu particulière. On a pris la voie de la récupération de vêtements puis d'articles usagés. Et c'est la vente de ces articles-là, les profits provenant de cette activité-là qui sont remis au niveau de la cause pour soutenir la KIS, mais également les organismes en déficience intellectuelle qui offrent des services, que ce soit des services de répit, des camps de jour. Les fonds qu'on ramasse servent également à soutenir des sorties éducatives, culturelles, sportives, particulièrement par les temps qui courent avec les Olympiques spéciaux. L'achat d'équipements spécialisés, construction de maisons d'hébergement et j'en passe.
C'est vraiment la source de financement la plus importante.
Tout à fait, c'est ça. Je vous dirais 95 % de ce qu'on récupère là, provient de la récupération de vêtements et d'articles usagés.
Et justement, on est dans cette période du ménage du printemps.
Oui,
c'est
oui.
La période où est-ce qu'on peut, on fait le tri un peu de ce qu'on garde ou de ce dont on se sépare de notre garde-robe, de nos objets. Comment ça fonctionne, cette collecte-là de votre part?
Bien, écoutez, le principal véhicule provient d'un réseau de boîtes de récupération de vêtements. On en a au-dessus de 300 dans le Grand Montréal métropolitain. C'est des boîtes bleues pâles avec le nom du support inscrit sur la boîte. On va retrouver ces boîtes-là essentiellement dans les dépanneurs couche-tard, les pharmacies, etc. Et je vous dirais peut-être la façon la plus facile pour les gens, c'est d'aller sur le site web de la Fondation, lesupport.ca, et de rentrer leur code postal pour pouvoir répertorier justement la boîte de dons la plus proche.
Et est-ce que c'est connu comme moyen de se financer?
Écoutez, c'est assez particulier le chemin qu'on a pris parce qu'on ne sollicite pas des dons monétaires en tant que tel au niveau de la population, puis on ne reçoit aucune subvention des gouvernements. C'est vraiment une voie particulière qu'on a prise et ça nous a bien servi parce que c'est grâce à ça qu'on a pu ramasser plus de 18 millions de dollars en aide financière pour soutenir la KIS, mais également les organismes en déficience intellectuelle. On le fait uniquement en ramassant des vêtements. Fait qu'il y a le volet social, mais il y a le volet environnemental aussi qui est non négligeable. On détourne bon an, mal an. 10 à 12 millions de livres de vêtements, là, des sites d'enfouissement. Alors, c'est une très, 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 très belle fondation.
Tout à fait. On voit vraiment que ça travaille, en fait, sur plusieurs plans, plusieurs plans inclusifs et dans un esprit très progressiste.
Tout à fait. Il faut savoir que c'était très novateur à l'époque aussi. Hein, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compétitions. Philippe pourra en parler. Il y a beaucoup de compétitions, mais à l'époque, c'était vraiment très novateur. Même les fameuses boîtes, là, je pense que ça a été pensé également par la fondation là, au tout départ?
Justement, bon, cet aspect de compétition dont vous parlez, Annick, parfois, ça a déjà été dit dans les médias. Quand on approche, on est au ménage du printemps, mais on approche le temps, la période des fêtes où il y a énormément de sollicitations. Il y en a parfois où est-ce qu'ils disent « Ah oui, je collecte des objets au profit de telle cause, de telle fondation. » Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui partent comme ça. Comment on fait pour s'y retrouver? Comment est-ce qu'on peut être certain que l'endroit où on donne... vraiment mener à quelque chose.
Je vous dirais, depuis 2-3 ans, il y a des entrepreneurs privés là, qui ont vu une opportunité d'affaires et qui ont parti des fausses fondations. Il y a eu plein de reportages sur la facture, entre autres, puis dans le Journal de Montréal, avec le bureau d'enquête, des entrepreneurs qui ont parti des fausses fondations puis qui ont installé des boîtes de récupération un peu partout. Alors, je vous dirais, peut-être la meilleure chose à faire, c'est de vraiment s'assurer qu'on ne met pas ses vêtements ou ses articles-là à n'importe qui. C'est de faire un peu ses devoirs dans la mesure du possible, peut-être d'aller voir avant de donner, faire des recherches au niveau d'Internet. Une bonne source, c'est l'Agence du revenu du Canada. Il y a moyen de rentrer le nom de l'organisme pour faire des recherches, pour savoir effectivement si c'est des organismes qui sont accrédités auprès de l'Agence du revenu du Canada. Puis je vous dirais aussi de regarder un petit peu où sont installées les boîtes. Si vous voyez une boîte de récupération dans le milieu d'un chemin vacant ou dans le nowhere, posez-vous des questions. Normalement, les organismes légitimes utilisent des bonnes pratiques, demandent la permission de pouvoir installer des boîtes pour les exploiter. Alors, de regarder un petit peu où on les installe.
Justement, c'est ça. Ils mettent clairement, en fait, les emplacements sont désignés. Il y a parfois même certains partenaires ou certains lieux où on retrouve le même type de boîte pour le même organisme. Est-ce que ce genre, justement, d'entrepreneuriat privé, dont on peut questionner les desseins, est-ce que ça vous nuit, vous? Est-ce que pour vous, c'est plus difficile de faire valoir la cause de... Même Annick Larose, vous pouvez répondre aussi, de faire valoir la cause de la KISS aussi?
Bien, si tu me permets, Philippe, c'est sûr que les gens, quand ils font leur ménage, parfois, ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser des sacs qui sont dans leur coffre. Hein. Donc, ils ne font pas nécessairement de distinction. Donc, je pense que c'est vraiment ça, l'importance, quand on veut donner, il y a une préoccupation, mais c'est certain qu'il y a eu des répercussions directes sur les revenus de la Fondation dans les dernières années. Là.
Ouais. On a perdu, dans les 3 dernières années, plus de 40 % des dons de vêtements dû à cette concurrence malhonnête-là, ce qui fait en sorte que en 2012, la Fondation avait remis plus d'1,4 million $ en aide financière, puis en 2015, en bas de 400 000. Fait que vous voyez un petit peu la tangente que ça a pris. Là, on fait toutes sortes d'efforts pour diversifier nos sources d'approvisionnement puis nos sources de revenus, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, c'est ça. Je sais que on demande tout simplement aux gens, avant de donner, regarder un petit peu à quoi vont servir justement ces vêtements-là, ces dons-là.
Qui on encourage justement par ces dons, justement parce que ce sont des projets qui sont financés, ce sont des sorties scolaires, des sorties culturelles, des divers projets qui visent toujours l'intégration sociale des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc, c'est quand même un coup de hache important dans...
Et puis c'est la seule fondation qui s'occupe vraiment de la déficience intellectuelle. Il faut
le
dire.
Faut le rappeler.
On n'en a pas une multitude, là, donc il faut la préserver.
Est-ce qu'il y aurait, justement, voyant ces difficultés-là, peut-être pour les perspectives d'avenir, de regarder du côté de diversification de sources de financement, par exemple des dons planifiés ou de s'associer?
Oui, bien c'est ça. On regarde, on se penche justement pour regarder du côté collecte de fonds, puis tout ce qui touche la gestion philanthropique. Alors, on va être à la recherche justement d'un expert dans le domaine, justement pour diversifier nos sources de revenus, minimiser un petit peu notre risque, être un petit peu moins dépendant justement de la collecte de vêtements et d'articles usagés pour être en mesure de pouvoir en donner plus, là, parce que les demandes sont de plus en plus grandes, mais l'argent n'est pas là, alors il faut trouver des nouvelles façons de faire et c'est ce qu'on s'apprête à faire cette année.
En terminant, Annick Larose, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées qui débute ce mercredi, le 1er juin, jusqu'au 7 juin. Qu'est-ce que ça représente pour vous deux? Qu'est-ce que ça représente cette semaine?
Nous, on organise vendredi une journée sur l'employabilité. Cette journée-là a lieu à Québec, justement pour permettre... les personnes qui ont une déficience intellectuelle souvent sont très éloignées du milieu de l'emploi, donc d'offrir aux parents, aux familles de voir un petit peu les possibilités soit d'emploi ou de travail. Je fais souvent une distinction entre les deux, mais quand même d'une occupation qui est valorisante et puis qui donc l'aspiration de la personne après 21 ans de vouloir être actif et de vouloir contribuer à la société. Donc, cette journée-là va avoir lieu au Cégep Garneau à Québec. On essaie d'un peu de faire des activités, étant donné qu'on a un mandat national, tant au niveau de l'ensemble du Québec qu'à Montréal. Donc, c'est sûr que cette semaine-là, je dirais, je trouve qu'il y a une plus grande ouverture à faire une place à la déficience intellectuelle maintenant, chose que peut-être qu'on se retrouvait pas comme parents. Là, je parle comme maman d'une personne qui a une déficience intellectuelle. La Semaine des personnes handicapées, il y a quelques années, je l'avais déjà signifié de toute façon à l'OPHQ, là, ils ne l'apprendront pas aujourd'hui, que je trouvais que la déficience intellectuelle était peut-être moins incluse parce que peut-être on avait la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Mais je pense qu'il y a un effort réel qui est fait les dernières années et qu'on ne peut saluer. Donc, c'est sûr que ça en prend toujours des semaines de sensibilisation comme ça, puis avec les collaborations de Stéphane Laporte, ainsi de suite, Martin Deschamps, mais ça n'en prendrait plus. Il y a d'autres semaines dans l'année.
Oui, justement, il faut en parler toute l'année. Merci beaucoup. Oui.
Merci à vous. Non, tout simplement pour vous dire que si les gens veulent, nous, on participe à un événement sans oublier le sourire qui, à la place Émilie Gamelin, je pense que c'est mercredi midi.
C'est jeudi, le 2 juin.
On va être là. Alors, si les gens veulent venir nous voir, on va avoir un kiosque sur place.
Parfait. Donc, une semaine de sensibilisation, mais aussi une semaine de célébration qui s'en vient pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Annick Larose, directrice de l'AQIS, l'Association du Québec pour l'intégration sociale, une de nos collaboratrices à Ça vaut le détour cette saison-ci. Philippe Sibès, directeur général du support, la Fondation pour la déficience intellectuelle. Merci vraiment d'avoir
merci
été avec nous.
Merci. Merci pour cette année.
Il y a tout le temps 4 ans de... You know.
La pièce Octobre des Cowboys Fringants, tirée de leur album du même nom. Et donc, nous sommes toujours le 30 mai. Et donc, il fait beaucoup plus chaud qu'au mois d'octobre. On est content. Finalement, l'été est à nos portes. On termine cette émission de Ça vaut le détour sous le signe de la solidarité. Un groupe qu'on vient de découvrir, qui vient tout juste de lancer un nouveau service au début du mois de mai. C'est Solidarité de parents de personnes handicapées, SPPH. Et je joins au téléphone la coordonnatrice du soutien aux familles, Mme Caroline Lavoie. Bonjour, Mme Lavoie.
Bonjour, Mme Pomerleau.
Aujourd'hui, on va parler tout d'abord de solidarité de parents de personnes handicapées. J'aimerais que vous nous présentiez la mission et aussi justement ce beau projet que vous venez tout juste de lancer.
Parfait. Alors, ben, écoutez, Solidarité de parents de personnes handicapées est un organisme qui est basé à Montréal et qui a été fondé en 1983 sous l'initiative de parents qui désiraient mettre sur pied un service de répit pour leur famille. Chose qui existait peu à cette époque-là. Au moment là, de la fondation de l'organisme, on répondait aux besoins de 150 familles. Aujourd'hui, c'est plus de 500 familles là, qui peuvent bénéficier des services de solidarité de parents. Donc, c'est des parents d'enfants, on dit enfants, là, mais c'est enfants, jeunes adultes et adultes, donc de 0 à 30 ans, toutes déficiences, tout handicap. Donc, nos programmes là, sont assez divers, mais on a entre autres le soutien aux parents par le soutien individuel, mais aussi par les groupes de discussion, les soirées d'information. On a divers services de répit aussi, là, un répit dépannage à domicile. On a un répit aussi qui permet, là, qui favorise en fait la conciliation travail-famille, qui est la tête en congé des vacances animées. Et on a un service qui s'appelle le Répit Plus, qui est plus dédié là, aux familles qui vivent des situations un peu plus complexes. On fait également, comme plusieurs organismes, là, de la défense de droit, bien entendu, de la concertation.
Mm-hmm. La défense de droit et concertation qui sont essentielles.
Absolument.
Et des sujets, justement, inévitables en ce moment. Parlons justement un peu de l'importance du répit pour les proches aidants d'une personne en situation de handicap.
Oui, ben, en fait, le répit est souvent identifié par les familles là, comme étant un besoin prioritaire. Hein. On a besoin de repos pour sortir un peu la tête de l'eau puis voir un petit peu plus clair. Puis il ne s'agit pas toujours d'avoir là, une fin de semaine de répit. Hein. Les parents ressentent aussi les bénéfices d'un répit, là, même s'il est de courte durée. En fait, il permet là, de reprendre son souffle, de passer du temps avec les autres enfants ou avec le conjoint, de faire des démarches aussi, puis de mettre là, ses idées en place, puis ensuite être un peu plus disponible là, pour son enfant.
Et le répit, justement, il n'est pas bénéfique que pour le parent. C'est l'enfant ou le jeune adulte handicapé en tire aussi des avantages.
Oui, absolument. C'est sûr que la fratrie, hein, c'est vraiment eux qui en tirent le plus grand bénéfice parce qu'ils peuvent avoir leurs parents pour une courte période. Bon, souvent, là, c'est l'enfant qui présente des défis, qui a le plus d'attention des parents, et c'est normal. Donc, la fratrie, en fait, les frères et sœurs peuvent en souffrir un peu. Puis pour la personne elle-même, c'est sûr que si c'est une personne qui est plus vers jeune adulte à adulte, elle va développer son autonomie pendant des périodes de répit. Puis pour les tout-petits, eux, ben ça va développer leur confiance dans les personnes de l'extérieur. Donc, le cordon, si on veut, là, va un petit peu se couper de cette façon-là.
Et vous avez créé récemment un portail regroupant les services de répit. À qui s'adresse ce portail? Quelle forme prend-il?
Bien, en fait, le portail s'adresse principalement aux parents d'enfants handicapés, mais aussi aux différents intervenants et aux professionnels là, qui gravitent autour de la famille. Donc, c'est vraiment un portail qui est facilement accessible aussi, qui est accessible par le web, donc Internet, que les parents peuvent utiliser là, quand bon leur semble.
Et que retrouve-t-on sur ce portail?
Bien, en fait, c'est des organismes qui offrent des services de répit. Donc, le répit peut être de différentes formes. Ça peut être du répit de longue ou de courte durée, à domicile ou en maison répit. Ça peut être des haltes garderies, ça peut être de l'accompagnement, mais ce sont vraiment des ressources principalement qui sont communautaires. Donc, les ressources, je vous dirais, plus privés ou les entreprises privées de répit ne sont pas vues là, sur le portail. C'est vraiment pour les petits organismes.
Pourquoi avoir fait ce choix-là?
Ben, en fait, c'est qu'on veut donner vraiment l'espace à des groupes qui ont peut-être un petit peu moins le réseau de diffusion ou la possibilité de se payer soit un site Internet ou de la publicité et qui ont aussi comme mission première là, les familles. C'est vraiment le cœur de leur mission, c'est les familles, donc c'est à eux qu'on veut donner le plus de place.
Mm-hmm. Est-ce que c'était un besoin que vous aviez remarqué, ce manque d'informations sur les ressources de répit disponibles?
Oui, ben en fait, il y a beaucoup de bottins qui sont faits pendant l'année par différents intervenants, mais c'est quand même des bottins qui sont statiques, donc souvent papier, qui peuvent être utilisés pendant une année, deux ans, mais dont l'information change rapidement. Donc, par le portail, l'information peut être mise à jour régulièrement par la ressource elle-même. Donc, vraiment, là, c'est du au jour le jour. Là.
Est-ce que tout le territoire du Québec est desservi par le portail?
Oui, bien, en fait, nous, ce qu'on vise, là, c'est que le plus d'organismes possible à travers le Québec soient présents. Pour l'instant, on en a une trentaine qui sont oui, principalement à Montréal, mais on a aussi des organismes des Laurentides, de la Naudière, de l'Estrie. On a même le Bas-Saint-Laurent qui est représenté. Mais vraiment, là, c'est une année de développement cette année. Donc, on vise là, encore plus large.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des critères pour l'inscription des organismes?
Ben, en fait, il faut que ce soit, comme je disais tout à l'heure, là, un groupe communautaire ou une petite ressource qui est reconnue par son milieu et qui offre du répit. Idéalement régi par un conseil d'administration qui a aussi peut-être des subventions, donc ça nous donne certaines peut-être qualités, mais c'est vraiment des ressources qui doivent être communautaires le plus possible.
Madame Lavoie, est-ce qu'il faut s'inscrire pour avoir accès au portail? Comment est-ce que ça fonctionne si on voit qu'il y a peut-être une ressource qui nous conviendrait? Vous êtes là pour présenter la ressource, mais vous ne faites pas nécessairement le lien.
Non, on ne fait pas nécessairement le lien. En fait, le parent ou l'utilisateur qui trouve une ressource, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'être inscrit au portail pour l'utiliser. Par contre, s'il trouve une ressource intéressante, c'est très, très possible que la ressource demande qu'il y ait un contact de fait entre le parent ou l'utilisateur et la ressource elle-même pour peut-être devenir membre de cette ressource-là.
Mm-hmm.
Donc ça, quand le parent trouve finalement la ressource qui fait son affaire ou il y a une place de disponible, il n'y a qu'à cliquer sur le petit bouton « En savoir plus » et toutes les informations sont données là pour les critères d'adhésion, la façon de s'inscrire à cette ressource.
Le portail a été lancé le 5 mai dernier. C'est donc près d'un mois bientôt d'existence officiellement. Est-ce qu'il est déjà beaucoup utilisé?
Bien, en fait, comme je vous le disais, il y a une trentaine de ressources qui sont déjà inscrites et qui annoncent leurs services et leurs places disponibles. On sait que des familles ont déjà commencé à les contacter. Et du côté du réseau, ben il y a l'OPHQ, donc l'Office des personnes handicapées du Québec, qui fait circuler l'information aussi à travers les régions, et les centres intégrés de santé et services sociaux montréalais, qui diffusent l'information à leurs intervenants terrain. Donc, ça va vite arriver vers les parents, et puis tous les groupes communautaires là, du milieu des personnes handicapées sont des possibles diffuseurs d'informations aussi.
Ce sont votre principale stratégie de communication actuellement?
Oui, pour l'instant, c'est notre stratégie, effectivement.
Je pose la question à certains de mes invités cette semaine parce que c'est le début de la Semaine québécoise des personnes handicapées ce mercredi, donc jusqu'au 7 juin. Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Ben, écoutez, une semaine, c'est très bien. Hein? Dans une année, c'est bien de souligner la présence des personnes handicapées, le souhait qu'on a qu'elles participent activement à la société, mais une semaine, c'est très peu dans une année. Hein? Sur 52 semaines, on apprécierait que il soit reconnu à travers chacune des journées des semaines de l'année.
Ainsi aussi que leur entourage.
Absolument.
Vous qui êtes la solidarité de parents de personnes handicapées, on parle beaucoup de l'importance des proches aidants, du rôle clé qu'elles occupent auprès des personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est une occasion, lors de cette semaine-là, de reconnaître leur contribution?
Oui, c'est une occasion de reconnaître, en fait, oui, leur contribution, mais aussi que ce sont des parents, d'abord et avant tout. Ce n'est pas des professionnels auprès de leurs enfants. On demeure des parents, même si notre enfant présente des défis. Et effectivement, de l'importance qu'ils ont dans l'équation vers un développement optimal là, de leur enfant.
Merci beaucoup. Caroline Lavoie, coordonnatrice du soutien aux familles à solidarité de parents de personnes handicapées. Bravo pour votre portail répit. On va suivre ce développement avec intérêt dans les prochains mois.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Je remercie mes invités qui étaient avec moi. Je remercie mon équipe technique, recherche et médias sociaux, Christiane Campagna, mise en onde de Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.